il ne faut pas comparer ces situations et se laisser dire que, bon, j'ai moins de raisons sur le papier d'être malheureux que plein d'autres dans ce monde. Donc, je vais continuer à être un bon soldat. Et donc, parfois, c'est une culpabilité, genre, j'ai pas le droit d'être malheureux car j'ai un bon salaire, j'ai un bon poste, j'ai machin, machin. Et parfois, c'est aussi une peur, j'ai pas le droit de changer car tout mon réseau est dans ce domaine. Toutes mes compétences sont dans ce domaine. Je vais repartir de zéro. J'ai écrit la théorie de la veste pour ces personnes-là. Quand on est obligé par notre circonstance d'être quelqu'un que nous ne sommes pas, en quelque sorte, nous sommes tous un peu rebelles. Et pour moi, la rébellion ne se manifeste pas pareil chez tout le monde. Mais aujourd'hui, je ne me sens plus très rebelle parce que j'ai trouvé ma place.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans coupe, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. J'ai découvert Annabelle dans le podcast Minute Papillon de 20 minutes. Mon podcast n'avait que 2 semaines et je m'étais dit « un jour, j'aimerais beaucoup l'interviewer ». Or, il y a quelques mois, une personne m'a suggéré son nom comme invité et de me mettre en relation avec elle. J'ai évidemment sauté sur l'occasion. Merci Stéphanie. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément. Avant de fermer la parenthèse, je vous donne rendez-vous sur Instagram ou LinkedIn car Annabelle fait gagner 10 exemplaires de son livre. Allez, refermons cette parenthèse. Annabelle a grandi en Alberta, dans une famille mormone. Elle a eu le courage de dire non à cette vie qui n'était pas pour elle. Son adolescence sera pour le moins compliquée. Elle part ensuite faire ses études à Toronto et atterrit à Paris. Annabelle va devenir consultante en communication. Suite à une affaire de MeToo, elle décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle est aujourd'hui entrepreneuse, conférencière et auteure d'un magnifique livre, La théorie de la veste. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Annabelle Robert.
Bonjour Annabelle.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Sure. J'ai choisi des post-it parce que je trouve que, un peu comme moi, au premier regard, on dit bah, « tiens, un objet simple », mais en fait, qui sert à tellement de choses. Avec le post-it art, on a su que le post-it peut être un objet d'art, peut être créatif. Ça nous aide au quotidien. On pense que c'est à la fois simple, mais en fait, il y a beaucoup de recherches et beaucoup de choses d'innovation en fait qui dans un post-it. Et surtout, un post-it est utile. Et moi, ma devise, c'est faire, c'est être. Faire maintenant, c'est mieux. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi un post-it.
Super. Est-ce que tu pourrais nous parler… le sujet de l'enfance, c'est un sujet dont je parle dans toutes les interviews. Mais pour toi, c'est, j'ai envie de dire, un peu essentiel dans ton histoire, plus que pour beaucoup, beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, où est-ce que tu as grandi et dans quel environnement?
Moi, j'ai grandi au Canada. Le Canada fait, je ne sais pas combien de fois la France, mais ma région, là où j'ai grandi, qui s'appelle l'Alberta, ce qui est un peu le Texas du Canada, mais en 15 000 fois plus froid, c'est une région qui fait 2 fois la taille de la France. Et à l'époque où j'ai grandi, le Canada entier était peuplé de à peu près 3 millions de personnes. Donc, imaginez 2 fois la France avec 3 millions de personnes, où il fait moins 30 l'hiver. Et là, vous allez comprendre un peu où j'ai grandi. Donc, j'ai grandi dans un village où il y en avait à peu près 2000 personnes, dont une bonne partie étaient mes frères et sœurs, parce que je suis l'aînée de 10 enfants. Et parfois, j'ai l'impression d'avoir 2 vies, parce que ici en France et en région parisienne, là où j'habite, on ne peut pas comprendre ce que c'est de faire 100 kilomètres pour rejoindre Auchan. On ne peut pas comprendre ce que c'est De fait, et encore, je vais, nous, pour rejoindre le hypermarché le plus proche, c'était 220 km. Et c'était possible de faire 100 km sans croiser une autre voiture. Il faisait toujours guetter pour des élans ou des loups ou des autres animaux qui peuvent traverser la route. Donc, les Parisiens, ils peuvent pas le comprendre. Mais en contrepartie de l'Alberta, là où j'ai grandi, les gens de l'Alberta ou le Fox Creek, là où j'ai grandi, ne peuvent pas comprendre ce que c'est la vie parisienne. J'ai dit que j'avais 18 ans avant que j'ai pris les transports en commun pour la première fois de ma vie et j'ai trouvé ça tellement exotique. Je me souviens de la première fois où j'ai vu un SDF et j'étais là genre, wow, je suis vraiment dans ma grande vie. Ouais, je me souviens que, juste pour terminer la petite anecdote, comme ça me vient à l'esprit, c'est rien, mais je me souviens que une fois, je suis retournée à l'Alberta pour le mariage de mon frère et j'avais amené des macarons de la durée. Donc, merci la durée Charles de Gaulle, ça rend la tâche facile. Je pense que c'était conçu comme ça. Hein. Autant que directrice marketing, tu peux dire que c'était quand même un coup de génie, cette histoire de la durée dans les aéroports. Mais et je me souviens que j'ai présenté ça, la grande boîte de macarons qui coûte 200 euros, j'ai présenté ça à mon frère et commencé à les snacker comme si c'était des cacahuètes de bar, quoi. Et vraiment, il les mangeait genre 2-3 à la fois. Et j'ai dit, non mais ça s'appréciait. J'ai dit qu'il n'y a pas de feu, hein. Les Allemands n'arrivent pas, c'est the Germans are not coming, hein. ça va. Et il m'a dit, ah bon? Ah ouais, d'accord, mais c'est vraiment des meilleurs Oreos que j'ai jamais goûté. À $3.50 l'Oreo. Quoi? $3? Non, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ces cookies pour qu'ils coûtent $3 chacun, machin? Donc, j'ai rien contre des Oreos, hein. Moi, j'adore, je kiffe, mais je vais dire que juste pour moi, dans ces deux, produit, ouais. C'est pas du tout la même culture, c'est pas la même société, c'est, voilà.
Ouais. Et donc, ta famille, t'étais l'aînée de 10 enfants et ta famille était mormone.
Ils restent mormons, ouais.
Ouais.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des mormons, parce que souvent, il y a confusion en France. On pense que des mormons, c'est des Amish, des gens qui portent des bonnets blancs, qui s'habillent dans des robes de pionniers, qui n'utilisent pas l'électricité.
Ouais, qui roulent en calèche.
Oui, voilà, ouais. C'est ça. Donc, non, mormon, ce n'est pas ça. C'est plus dans la famille témoin de Jéhovah ou autre genre de religion extrêmement américain qui frôle le secte. Le mormonisme est un secte dans certaines cultures, mais c'est une religion américaine qui était commencée par un monsieur américain dans les années 1800 qui disait qu'il avait vu Dieu et que Dieu lui parlait à travers d'un chapeau pour lui aider à traduire un nouveau Bible qui était enterré en Amérique par des Amérindiens que les Mormons considèrent sont un tribu perdu de l'Israël. Donc, c'est, voilà, avec du recul, et quand je le dis comme ça, j'ai dit, mais comment j'ai pu croire des choses pareilles? Mais quand on est né dedans, c'est tout ce qu'on connaît. Donc, moi, j'ai grandi dedans. C'est une religion extrêmement très, très liée à la patriarchie. Les femmes n'ont pas le droit de participer à plein de choses dans la religion. C'est vraiment mal vu pour une femme de travailler, d'avoir une carrière, d'avoir de l'ambition. C'est, si ma mère, elle a toujours été femme au foyer et qu'elle a 10 enfants et que mes sœurs et mes frères, ils ont aussi beaucoup d'enfants et aucun de leurs femmes travaille, c'est au cause de la religion,
Ouais.
Même.
Et toi, petite fille, t'étais un peu rebelle?
J'ai toujours été un peu rebelle, mais je pense que, en fait, tu vas me dire ce que t'en penses, toi qui es l'experte dans le sujet, mais en fait, quand on est obligé par notre circonstance d'être quelqu'un que nous ne sommes pas, En quelque sorte, nous sommes tous un peu rebelles. Et pour moi, la rébellion ne se manifeste pas pareil chez tout le monde. Moi, ma rébellion, elle est très liée à la colère, parce que c'est comme ça que je me défends. Quand je me sens trahie, je suis en colère. Quand je me sens frustrée, je suis en colère. Donc, j'ai même dû travailler ma colère, parce qu'elle peut être même toxique pour moi et pour mon entourage. Mais pour moi, dès qu'on force quelqu'un d'être quelqu'un qui n'est pas, en fait, on va avoir une rébellion. Et cette rébellion, ça peut être de la passivité. C'est-à-dire que, on a tous cette image de la fonctionnaire qui déteste son job, qu'elle s'éteint le cerveau pour ses 35 heures, et non pas 35 heures et 3 minutes, hein, 35 heures et encore, et que sa vie commence quand le week-end commence, et sa vie commence en vacances. Donc, cette passivité, genre, whatever, je ne vais pas m'investir dans mon job, pour moi, c'est une rébellion aussi. Hein. Ça se trouve juste que moi, ma rébellion, elle est très volcanique et très sanguine. Mais aujourd'hui, je ne me sens plus très rebelle parce que j'ai trouvé ma place.
Ouais. Mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est sûr que quand on n'est pas aligné avec qui on est, ça crée un déséquilibre. Et donc ce déséquilibre, ça va être, il va y avoir des effets à la fois sur le corps qui va nous parler. Donc à chacun, il va parler de façon différente. Et puis également, en effet, sur le comportement, parce que il y en a en effet, ça va être de la colère. Moi, je sais que je partage le la colère. Et tu vois, quand je t'écoutais, je me disais, je me suis quand même vachement apaisée et ça fait du bien.
C'est sûr.
Ouais. Et donc, du coup, petite fille, assez rapidement, tu as dit que tu étais athée à ta famille.
Oui.
Comment ça s'est passé?
Bon, ça ne s'est pas très bien passé, hein. Laisse-moi te dire ça. Donc, en fait, c'est pour moi, j'ai toujours quêté après la vérité. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est motivé par l'efficacité, je suis quelqu'un qui est motivé par la vérité. Je suis quelqu'un qui change d'avis tout le temps. Ce que beaucoup de gens m'ont dit était un faux de caractère. C'est pas bien de changer d'avis tout le temps. Et j'ai jamais pu comprendre ça parce que j'ai dit, en fait, quand on a une nouvelle information qui nous montre que les conclusions qu'on tirait auparavant n'étaient pas forcément les bonnes, c'est normal de changer d'avis. Et toi et moi, Charlotte, je pense qu'on a une chance énorme, et c'est d'être née dans un tout petit minuscule parenthèse de temps où on a pu connaître la vie sans Internet, mais vraiment sans Internet, et voir l'effet que l'Internet a pu avoir sur ce monde. On est la seule génération qui va pouvoir faire ça. Et pour moi, nous sommes un espace de trésor sociologique qu'il faut il faut inquiéter après nous. Enfin, non, c'est pas ça, enquêter. Voilà. Ouais. Parce que on est la seule génération d'avoir connu ça. Et ça a impacté tout le monde, comme avoir plus d'informations impacte tout le monde. Et donc, je me souviens où la première fois où je suis allée sur Internet, les premières requêtes que j'ai faites sur Internet, c'était sur le Star Trek, parce que c'était mon série préférée, et ça reste mon série préférée. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, tiens, je vais poser mes questions de religion à Internet, parce que c'était la première fois où j'ai eu affaire à quelqu'un qui allait me répondre, qui n'était pas de ma religion, qui n'était pas l'évêque de la paroisse, mes parents, etc. Et j'ai tombé de haut, quoi. J'ai tombé de très, très haut. Donc, toutes les choses sur le fondateur du mormonisme, qui est en fait un pédophile, qui avait se marié avec des filles de 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui avait des dizaines de femmes, mais des trucs horribles, quoi. Donc, c'est des choses que la religion m'a cachées.
Ouais.
Et là, c'était le début. Et je dis, non, mais c'est pas possible.
T'avais quel âge à cette époque?
Oh, peut-être 15 ans, 14 ans, ok, 13 ans, même avant. Mais même avant, j'étais athée sans savoir ce que ça veut dire, parce que je me souviens que j'ai posé la question, j'ai dit, mais comment est-ce possible qu'il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique? Et j'avais des réponses genre, mais c'est leur lot. Voilà, c'est le lot qui ont été tirés. C'est comme ça que Dieu a décidé de leur challenger. Je dis, mais challenger, on ne challenge pas un enfant de 3 ans avec est-ce que vous avez envie de manger ou pas. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et donc, à 11 ans, je savais que soit Dieu n'est pas très sympa, en fait. Okay, donc, soit, voilà, je n'avais pas ce genre de langage, mais soit il est un peu sadomaso, en fait, soit il n'est pas puissant, soit il est impuissant d'aider ces pauvres enfants qui ne méritent rien et tout. Donc, déjà, j'ai dit, j'adhère pas trop à cette histoire. Et ça, à chaque fois qu'on allait à la messe, il y avait, il nous enseignait que quand Jésus revient, il va nettoyer la terre et donc tous les homosexuels vont être brûlés vifs et tout. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et donc moi, j'avais des questions. Donc tout le temps, c'était Annabelle, non, arrête de poser des questions. Il faut avoir de la foi. Et chaque fois que je me levais la main comme ça, c'était non, il faut pas. Donc là avec le coup d'internet, c'était la coup de grâce, c'était bon quoi. Et donc quand j'ai commencé à avoir ce genre de questions et quand j'ai rebellé en quelque sorte contre ce que les Mormons voulaient que je croie, et ça s'est pas très bien passé. Donc j'étais mise dans une famille d'accueil.
Très donc du coup loin. tes parents
ouais, ils m'ont sorti de la famille. Ils m'ont mis dans une famille d'accueil mormone, un première, et ça se passait bien. Donc, le famille d'accueil dit, elle est performante, elle a 20 sur 20 en tout, cette fille. Je ne vois pas pourquoi elle n'est pas avec ses parents, etc. Et donc, je suis revenue et ils m'ont ressorti à nouveau. Ils m'ont mis dans une autre famille d'accueil. Ça ne s'est pas très bien passé. Il y avait des abus, il y avait... des choses que ça ne devrait pas arriver à des enfants. Et donc, plus vite, le plus vite possible, donc l'âge légal où on peut partir de chez nous, c'est 16 ans en Alberta. Donc, à 16 ans, je suis partie. J'allais dans le sud de ma région et j'ai vécu avec mes grands-parents. J'ai terminé mon bac là-bas. Je travaillais dans le hypermarché de la ville pour me nourrir, pour payer ma vie, etc. Et je suis partie comme ça.
Et comment tu l'as vécu quand tes parents t'ont dit il faut que tu quittes la maison?
En quelque sorte, c'est avec le recul, en fait, que j'ai pu avoir des réactions à ça. Et comme n'importe quelle personne qui a vécu des traumatismes, en fait, c'est après qu'on voit ce qui nous fait des traumatismes. Et donc, dans un traumatisme, le plus important, c'est de survivre. Et je trouve que le corps et le cerveau est très fort pour faire un espace d'autopilote, genre « oups ». Ok, très bien. Il y a une question de survie, donc là, on va se mettre en autopilote. Et donc, ça sort. Après, j'ai eu un ami qui est psychologue qui m'a dit, Annabelle, le corps traverse l'adolescence quand tu es ado. Le cerveau traverse l'adolescence quand tu es dans tes années 20. Et l'esprit traverse l'adolescence quand tu es dans tes années 30. Et je trouve que c'est assez bien dit, en fait, parce que c'est vrai que les années 20, c'est qui suis-je, comment fonctionne mon cerveau, etc. Et les années 30, c'est comment est-ce que je peux être en lien avec qui je suis et mon âme, en quelque sorte.
Bien sûr.
Je peux dire ça. Et donc, j'ai foncé. En fait, j'ai toujours su que l'éducation et l'école allaient me sauver, même si quand je suis arrivée à mes études de communication, finalement, j'ai pas pu les valider parce que les études au Canada, ça coûte cher. C'est pas comme ici. Je vais dire que ici, voilà, si vous avez
à la fac,
vous pouvez vous en sortir. C'est après avoir acheté tes livres et tout, nanana. Non, au Canada, c'est pas ça. C'est pas. Parfois, ça peut être 10 000 euros par trimestre. Donc, si on est seul à les payer, je me souviens, hein, j'ai travaillé, je faisais mes études. Le matin, je travaillais autant que waitress, comment dire ça
Serveuse.
Serveuse, dans un grand hôtel à faire le petit déjeuner. Ensuite,
femme de chambre, du coup.
Ouais. Non, pas dans les chambres, dans le restaurant.
D'accord.
Et après, j'allais faire mes cours, donc de 11h30 à peu près 14h30. Ensuite, je revenais de 15h à 18h. J'ai travaillé à vendre des petites culottes dans un boutique de lingerie. Et après, le soir, je travaillais dans un bar. Voilà, donc j'avais trois jobs, plus y aller à l'université. Toronto, je suis allée à Toronto parce que j'avais envie d'une grande ville. Mais c'est pas donné, c'est un peu le New York du Canada. Donc, je me souviens que, voilà, à la fin, mon école m'a dit, madame, ça fait deux trimestres que vous n'avez pas payé, etc. Vous ne pouvez pas valider votre diplôme. Je dis, tant pis. Tant pis, je vais aller en France. J'avais la possibilité de faire un programme avec mon école. J'avais inscrit avant. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France.
D'accord. Et juste avant qu'on parle de ton arrivée en France, quand tu étais petite fille, est-ce que tu avais des rêves ou c'était, entre guillemets, pas imaginable à cette époque-là, vu le contexte dans lequel tu vivais?
Ben, moi, j'avais un rêve, c'était de vivre à New York. Mais en fait, aujourd'hui, jamais de la vie est-ce que je vivrais à New York. Hein. Et même Paris, j'ai quitté Paris, en fait. J'habite pas loin de Versailles, mais dans le forêt, avec de la verdure et une maison, et la boulangerie est à 1 kilomètre à pied. Hein. Mais en fait, pour moi, New York représentait des gens, représentait un endroit où tu pouvais être qui tu étais, en fait. Si tu étais gay, bah, à New York, c'est pas un problème. Si tu as des cheveux roses, mais à New York, c'est pas un problème. Si, par exemple, le sport et le hockey sur glace, tu tombes contre fou, à New York, c'est OK. Si c'est ton kiff, bah, à New York, c'est OK. Et donc, c'est pour ça que pour moi, je voulais aller vivre New York. Je voulais habiter dans une grande tour. Je voulais travailler dans un grand tour, dans le business, machin, là, là. Aujourd'hui, tu me fais travailler dans une grande tour à la Défense. Je pense que je profiterai de l'auteur pour me suicider, quoi. Je dis, mais quelle punition, quelle horreur. Okay? Bon, après, si vous êtes heureux à travailler dans une tour à la Défense, super, power to you, okay? Comme on dit en anglais. Mais cette mentalité de petite ville, j'en pouvais plus, je n'en pouvais pas. Donc, c'est pour ça que je pense que je suis, malgré le fait que ça coûte hyper cher, je me suis retrouvée à Toronto, où j'ai adoré, j'ai absolument adoré.
Et au moment, du coup, de faire des études, si tu étais restée dans la religion et dans ta famille, les femmes ne font pas d'études. Tu racontes notamment, d'ailleurs, dans ton livre, que tu as eu un moment d'espoir parce que on s'est rendu compte bah, que quand les femmes se retrouvaient veuves et qu'elles ne savaient rien faire, bah, c'était un vrai sujet parce que ça coûtait du coup de l'argent à la communauté et donc il fallait trouver une solution. Est-ce que tu peux nous raconter bah, ce petit moment d'espoir qui finalement c'est
une fausse espoir.
Ouais.
Et je me souviens de ça. Et pour tout te dire, c'est mon éditeur en fait qui m'a dit, Annabelle, le livre que tu as écrit sur l'ambition et assumer son ambition, c'est canon, mais on a besoin de comprendre d'où tu viens. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Il ne faut pas que ça soit 15 chapitres, hein, mais qui va plutôt nous donner une petite fenêtre sur cette fin d'arrivée, cette ambition que tu n'avais pas le droit d'assumer et tout. Et donc, je me souviens, j'étais dans le bureau de mon agent littéraire, qui est une dame absolument incroyable, et que cette anecdote-là que je vais te raconter m'est venue à l'esprit. Et donc, je l'ai racontée. Et après, ils étaient tous bouche bée. Ils me regardaient tous avec des yeux, mais gros comme des sous, comme des assiettes, quoi. Et là, j'ai pensé que j'ai fait une gaffe. J'ai dit, c'est pas bon. Il m'a dit, mais tu rigoles. Et il m'a dit, on va ouvrir le livre avec ça. J'ai dit, oh, OK, d'accord. Et c'est juste un truc qui m'est venu à l'esprit comme ça. Mais je me souviens particulièrement de... J'étais en famille d'accueil. Et j'étais très impliquée dans mes études, mais je continuais avec mes questions pendant les moments où on était censé être dans la messe, censé être en étude de textes religieux et tout. Et moi, mes questions, pourquoi Et donc, arrivé à l'âge de 14 ans, autant que mormone, tu es obligé en plus d'y aller à la messe 3 heures par semaine et d'y aller à des cours de comment être une bonne femme et mère plus tard, 1 heure par semaine le jeudi. En plus, tu es obligé d'étudier des textes et faire une espèce de catéchisme de mormonisme, mais 1 heure par jour avant 7 heures. Donc, en fait, c'est lecture et ensuite des exercices pour mieux comprendre la doctrine mormon. Et moi, je ne voulais pas faire ça parce que j'ai trouvé ça idiot. J'ai trouvé ça complètement stupide. Je vais dire que c'est comme faire des études de géographie pour comprendre pourquoi la Terre est plate, quoi. C'est stupid. Donc, donc moi, je ne voulais pas le faire. Et donc, j'ai dit, je ne vais pas le faire. Et donc, ma famille d'accueil m'a privée de mes livres d'école parce qu'ils ont dit, tu ne veux pas étudier ce qui est important, tu n'auras pas tes livres d'école. Je le fais, mais j'ai trouvé ça tellement stupide. Mais j'ai dit, whatever, OK. Et je me souviens qu'une fois, on était... le jeudi soir, et le jeudi soir, c'est là où on faisait des activités de jeunes filles. Et donc, il fallait y aller, on apprendre à tricoter, à faire des premiers secours, à faire des activités de babysitting, à faire toutes les choses que l'Église mormone estime que c'est important pour une femme de connaître ces choses-là. Et j'ai vu sur le planning qu'on allait faire formation carrière. Je dis, dis donc, ça change du tricot, hein, c'est sympa. Hein. J'ai rien contre le tricot. Hein. Aujourd'hui, je tricote beaucoup, mais je vais dire que si on dit que voilà, le tricot et rien d'autre, c'est ça auquel tu as droit, bon, c'est un peu frustrant. Donc, je dis, trop cool. J'avais hâte, en fait, de faire le career training. Et donc, le career training, en fait, c'était un communiqué parce que le Vatican mormon, en fait, c'est un état au milieu des États-Unis qui s'appelle le Salt Lake City. Et quand les hommes, les vieux hommes blancs, en fait, qui gèrent l'Église depuis toujours, ils veulent parler à tous les membres aux différentes démographies de l'Église, ils vont envoyer un communiqué. Et ça va être lu, soit dans la messe par l'évêque, là, dans ce cas-là, par la dame qui gère des jeunes filles mormones entre les âges de 12 ans et 18 ans. Sur le career training, parce qu'il y avait un problème dans l'Église mormon. Chaque mormone ou chaque mormon paye 10% de ses revenus pour participer à la religion. OK? Donc, c'est X par mois pour en tirer des bénéfices de Dieu. OK? Et comme j'ai écrit dans Netflix, dans le bouquin, c'est un peu comme Netflix, mais en moins drôle. Donc, cet argent était utilisé pour construire des églises, construire des temples mormons, construire différents trucs, etc. Et l'Église mormone, ils ont constaté une grosse dépense qui est estimée pas très nécessaire, et c'était de nourrir des femmes en cas de leur mari qui est décédé ou qui a un accident et ne peut plus travailler. Et comme on n'a jamais encouragé ces femmes à avoir des carrières, à être indépendantes financièrement, les différentes femmes mormones qui se mariaient jeunes, très très jeunes. Moi, par exemple, quand j'ai fait mon bac, il y a une fille dans mon classe de bac qui était déjà mariée, en fait. Ces femmes, si malheur arrive à leur mari, il peut pas trouver des chouettes jobs, il peut pas payer un babysitter pour nourrir leurs nombreux enfants et tout. Et donc, l'Église mormon nous a envoyé un communiqué que, à partir de maintenant, c'est encouragé pour une jeune femme de faire un diplôme avant qu'elle se marie. Les diplômes d'un an, c'est pas la peine de chercher très loin, éventuellement 18 mois, mais voici des suggestions qui étaient sanctionnées par l'Église mormon. Coiffeuse, auxiliaire de vie, il y avait quoi d'autre ?
Secrétaire,
assistante de classe, assistante machin, assistante maternelle, quoi d'autre ? Aide-soignante, donc c'était pas genre 4 ans d'études de médecine, hein. C'est auxiliaire, quoi. Dans les hôpitaux, assistante dentaire, okay, et ainsi de suite. Et j'ai rien contre la profession dentaire, j'ai rien contre des assistantes maternelles. Je suis ravie qu'il y a des femmes qui ont choisi ce métier et que ça leur convient. Mais en fait, pourquoi j'ai senti une telle colère dans ce moment précis? Parce que il n'y avait pas banquier, il n'y avait pas médecin, il n'y avait pas ministère de la Défense, ok? Et j'ai senti enragée en fait, et ça m'a tellement détruite en fait, parce que j'avais tellement d'espoir que enfin ils vont parler carrière, on va pouvoir, ok? Non, et donc ça m'a juste mis en colère, ça a mis en colère en dehors de moi, et j'avais besoin de manifester cette colère, j'avais besoin, tu sais, tout le monde à leur, tout le monde à leur limite, quoi. Et donc le dimanche, j'ai planifié un espace de manif que j'allais faire toute seule. Arrivée l'heure de la messe, moi je suis aux premières prières de la messe où tout le monde ferme les yeux. Moi, je suis sortie discrètement comme un psychopathe, en fait, parce que j'avais dans mon sac mes cours de mormonisme avec les bibles mormons, les textes sacrés, machin, là, et des allumettes et de la laque. Et j'ai creusé un trou dans la neige devant la grosse baie vitrée de l'église. Et j'ai foutu le bible, le machin, là. J'ai bombé tout de laque, je l'ai allumé. Je jette le bombe de laque et je reprends ma place dans la messe. Évidemment, quelques minutes plus tard, ça s'explose. Mais petite explosion, je vais dire que c'est pas...
Oui, voilà, c'est pas Hiroshima. C'est pas comme au Liban, quoi, ouais.
Oui, non. Ouais. Mais quand même, ça a fait une petite explosion, ça a fait un peu de feu, et donc tout le monde sort pour voir ce qui se passe et tout. Et il y avait de la neige jusqu'à mes hanches, donc il suffisait de le couvrir de neige et le feu était éteint. Hein. Mais le l'évêque, il dit, mais qui a fait ça? Et donc, moi, je me souviens, j'ai dit que, en fait, là, il m'offre un cadeau, parce que ce que je voulais, c'est que les gens qui m'entendent, que les gens m'entendent. Et donc, je mets à côté des cendres de textes secrets. Et je me suis croisée les bras comme ça. Je me suis dit, bah, c'est moi. Voilà. C'est moi. Et j'étais punie sévèrement, et j'avais encore plus l'étiquette, genre, enfant perdu, là. Mais je m'en fichais, en fait, parce que là, j'ai compris, en fait, que tu vas pas m'avoir, en fait. Vous allez pas m'avoir. Et qu'on peut pas choisir parfois notre situation, mais on peut toujours choisir la réaction à notre situation. Et je dis pas que si vous êtes pas content dans votre travail, il faut mettre le feu. Pas du tout. Hein. C'est pas du tout ça ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que j'avais besoin de leur montrer que c'est non. Que là, c'est non. Que là, ça dépasse mes limites et que c'est non. Et je n'accepte pas. Et si vous essayez de me forcer, ça sera contre ma volonté. Et là, j'ai goûté au pouvoir, ce que c'est de dire non. Et donc, là, depuis, je l'utilise très libéralement, le mot non. Hein.
Sans mettre le feu avec une bombe de lac.
Voilà, sans mettre le feu avec un bombe de lac. Mais en quelque sorte, maintenant, avec le recul, je comprends que cette situation et ce qu'ils essayaient d'imposer sur moi était tellement contre mes valeurs, tellement contre qui je suis, que ça m'a poussée à la violence, en fait. Et que plus jamais ça m'est arrivé, parce que avec la liberté de choisir ce que je veux pour ma propre vie, j'ai plus besoin de mettre le feu où que ce soit.
Ouais. Et quand à cette époque-là, quand avant que tu ailles dans cette formation pour la carrière, sans savoir ce que tu, enfin, avant que tu aies la désillusion, ton rêve, ça aurait été qu'on t'apprenne quoi comme type de métier?
Je sais pas, mais quelque chose où on peut évoluer. Je vais dire que quelque chose où the sky is the limit, en fait. Et J'ai toujours aimé des mots. Donc, autant que j'adore la France, pour moi, c'est vraiment la pointe de frustration que j'ai avec le français. C'est que j'ai l'impression de ne pas avoir toutes les pinceaux nécessaires pour créer ce que j'ai en tête avec les mots, comme j'ai en anglais. Donc là, j'ai mon bouquin qui sort en anglais. Et autant que je me suis fait aider en français pour écrire le bouquin, là, en anglais, c'est moi qui ai écrit chaque mot. Et mon agent et mon éditeur me dit que oh là là, qu'est-ce que c'est génial en anglais, c'est super en français hein, mais c'est génial en anglais. Donc j'ai toujours su que ça allait avoir quelque chose avec les mots. J'ai fait des études de communication, j'ai fait des études de journalisme, j'ai vu ce que les journalistes gagnaient en moyenne, donc j'ai changé pour être plus corporate. Après il fallait me comprendre, il fallait tester le corporate pour voir que c'est pas du tout ça ce que j'avais envie de faire. Tout ça auquel j'avais envie de dédier mes
comment talents. Comment tu t'en es rendu compte que ce n'était pas pour toi, du coup, ça?
En fait, j'ai eu la chance, quand je suis venue en France, d'avoir un super job, mais un cadeau du ciel. Mais vraiment un cadeau du ciel. J'étais prof d'anglais pour des dirigeants très haut placés. Donc, en quelque sorte, une petite gamine de 24 ans, toute la journée, aller donner des cours à des comités de direction des plus grandes sociétés françaises. Et en fait, ça m'arrivait d'avoir 5 PDG dans une journée. Et avoir 5 PDG CAC 40 dans une journée auxquelles j'allais faire des cours d'anglais. Mais c'est dingue, quoi. Et au début, ça m'a créé un espace de faux vision de Paris, parce que au début, moi, je donnais des cours dans des bureaux qui faisaient 45 mètres carrés, avec des vues sur l'étoile, sur la Tour Eiffel, sur le parc Monceau et tout. Et je dis, mais pourquoi les Parisiens se plaignent? Il n'y a pas de 45 mètres carrés à Paris. Je dis, tout le monde a des chouettes bureaux, machin, n'importe quoi. Donc, mais en fait, voir d'avoir un espace de backstage pass, de pass VIP en quelque sorte, des coulisses de la CAC 40, m'a permis de voir que le business, c'est génial. La politique dans la business, c'est pas très génial. Et on peut pas avoir un grand business sans qu'il y a des histoires de politique, de ci, de ça, là. Et donc, ça m'a vite écœurée. J'ai trouvé ça chouette de pouvoir observer, comprendre, etc. Mais y participer, non merci.
Ouais, c'était pas ton truc. Et du coup, au moment où tu t'en es rendu compte, c'est le moment où tu as créé ton entreprise?
Non. Donc, j'avais un job. Ensuite, dans un cabinet qui formait des hommes et des femmes dans le business et la politique, dans les techniques de communication, j'écrivais des discours en anglais, j'aidais ces hommes et ces femmes à travailler leur communication. Et je suis partie, pour tout te dire, pour une histoire de MeToo. Donc, il y avait un décalage de valeurs avant, mais il y avait un monsieur dans l'entreprise que c'est comme si Gérard Depardieu et DSK ont eu un enfant, quoi. Et qui pour lui, voilà, c'est tu me plais, donc t'es pour moi et je te paye, donc c'est ainsi. Et j'ai vécu 6 mois d'enfer comme ça, en fait.
Ouais. Et donc, t'as réussi. Et comment ça s'est passé, du coup, le départ?
J'ai annoncé que je partais et il voulait pas me laisser partir, et donc j'ai dû prendre une avocate, etc. Mais je voulais pas de son argent, hein. Je voulais juste partir et pouvoir avoir un ou deux mois de chômage, histoire de me retomber sur les pieds et tout. Et il voulait pas, il voulait que ma vie soit un enfer, et il a engagé un détective privé pour me suivre. Chaque fois que je quittais chez moi, il y avait quelqu'un qui m'observait, machin. C'était vraiment un enfer. C'était récemment la journée de la femme.
Ah, c'était hier, hein? Ouais. La journée de la droit de la femme, ouais.
C'est ça. Et j'ai vu des posts en disant je sais pourquoi il faut attaquer les hommes, la femme arrive à l'égalité, c'est pas la peine de... Mais voilà, ce genre de discours. Et j'avais juste envie de dire, vous ne savez pas de quoi vous parlez, en fait. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous n'avez pas vécu des choses que certaines femmes ont vécues. Vous n'avez pas, vous avez aucune idée ce que c'est de vivre dans une situation où tu ne vas jamais atteindre l'égalité dans ta vie. Donc, selon une étude qui a été faite par Melinda Gates, on voit que l'égalité homme-femme, si on continue sur notre trajet actuel, sur notre élan actuel, bah, ça ne sera pas avant 2050. Donc, ça m'énerve, en fait, des gens qui disent que, ouais, mais pourquoi on a besoin de la journée de la femme et tout. C'est, tous les jours doivent être la journée de la femme tant qu'on n'est pas dans un environnement où une femme n'a pas à craindre qu'elle va être agressée dans son lieu de travail. Une femme n'a pas à craindre que si elle rentre seule la nuit, elle ne risque pas de violence. Donc, moi, je lui ai demandé de partir. Il ne voulait pas me laisser partir. J'ai dû battre un petit peu pour partir. Mais en fait, quand il a compris qu'il m'avait envoyé des SMS de cul et que j'avais ça dans mon dossier, et tout ce que je voulais, en fait, c'est de partir sans toucher à une centime de son fric. Voilà, il arrive un moment où il ne faut pas être trop con. Donc, je suis partie. La seule chose que je voulais négocier, c'est que j'ai le droit d'attaquer ses clients. Parce que j'ai dit, là, ça va être ma revanche. Là, ça va être ma vengeance. Ses clients, je suis courue après et je les ai signés un par un. Et voilà.
Donc là, tu t'es lancée donc, toute seule à ton compte ?
Je suis lancée toute seule à mon compte. Au début, je me suis dit, bon, je vais être une freelance, je vais exercer mon métier autant que freelance. Mais très rapidement, après une phase de doute que je raconte dans le livre, parce que le problème avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut entreprendre, en fait. Et tant qu'on n'a pas de clients, on n'a pas de business, on a un loisir, on a un passe-temps. Hein, on revient à cette histoire de tricot, parce que autant tricoter si vous n'allez pas chercher des clients et générer du business. Donc, ça a demandé un certain effort de ma part, et c'est comme ça qu'il est né le bouquin La théorie de la veste. C'est que j'avais peur d'être rejetée. Et cette histoire d'abus et cette histoire de MeToo, ça a duré 6 mois quand même, et ça m'a fragilisée, en fait. Ça m'a fragilisée. C'est souvent des gens qui survivent des attaques, que ça soit physique ou sexuelle, etc. Ils disent en fait que on perd nos repères. Et après, j'ai toujours été quelqu'un de forte, j'ai toujours été quelqu'un de entière, j'ai toujours été quelqu'un de je vais faire une action, un truc m'est arrivé, c'est pas grave, je vais acter, je vais faire, c'est être, faire maintenant c'est mieux. Et j'avais perdu tous ces repères là donc il fallait signer des clients avant d'envoyer des factures, et j'avais peur, et j'ai passé des journées à ne rien faire, en fait, à ne pas signer des clients. Et là, je dis, c'est stupide. Et le traitement pour un phobie, en fait, si vous demandez à n'importe quel psychiatre, va te dire que c'est de s'exposer à ce qui te fait peur. Et moi, j'avais peur d'être rejetée, j'avais peur du vest, j'avais peur d'être encore plus fragilisée. Et j'ai dit, il faut que je m'expose à ce truc, en fait. Donc, c'est là où j'ai dit que je ne peux pas quitter ma petite buanderie que j'avais convertie en home office tant que je n'ai pas pris 3 vestes, 3 portes, 3 râteaux, 3 rejetés, 3 non merci, 3 pourquoi vous m'appelez, 3 voilà. Okay. Et donc, j'ai commencé à appeler des gens dans mon réseau en disant, je suis mise à mon compte, est-ce que ça vous dit que je vous aide avec vos présentations, avec vos discours, avec vos apparences médias, etc. Ah ouais, super. Non, mais c'est vrai que j'ai gardé un très bon souvenir de notre travail, mais ça sera avec plaisir. Et donc, j'ai commencé à avoir non seulement des rendez-vous commerciaux, mais des gens qui ont signé direct en disant, ah ouais, total. Et en plus, c'est moins cher qu'une agence. Un free, c'est moins cher qu'une agence. Donc, là, ça a très bien marché. Mais arrivé 18h, je n'avais pas pris de veste, je n'avais pas pris de râteau. Bon, je vais aller un petit peu plus franco-franche, quoi. Et donc, j'ai appelé des prospects. Donc, j'ai dit, mais c'est qui le prospect qui me fait le plus rêver, etc. OK, merci le marketing français, Chanel. J'aurais trop envie de signer Chanel. Et donc, j'appelle, je trouve un numéro sur Internet pour Chanel. pour Chanel. Et j'appelle et je dis, mais personne ne va me répondre et ça sera une veste. Chanel, bonjour. Okay. Je lui ai demandé à parler à la directrice de la communication. Très bien, je vous le passe. Oui, elle ne peut pas me passer, mais qui passe? Qui passe? N'importe qui appelle à la directrice. Bon, après. Et là, j'ai eu ma veste, mais une veste douloureuse, mais douloureuse. Okay. Donc là, ce que je dis dans le bouquin, c'est que j'ai changé le titre de cette dame pour qu'elle ne puisse pas être identifiable. Donc, Chanel a plusieurs remarques, hein, Chanel, ouais. Côté, machin, là. Donc, ce n'était pas la directrice de la communication et vous ne serez jamais qui c'était vraiment, parce que ça ne sert à rien que je dis quoi que ce soit contre cette dame qui doit être énormément sollicitée, en fait. Mais après cette veste qui m'a fait tellement plus mal que j'avais pensé, okay, donc cet sentiment dont je craignais tellement, c'était 10 fois pire, en fait. Mais trois minutes après, ça me faisait plus mal. Quand je relativisais, je disais, cette dame, elle ne me connaît ni d'âme ni des dents, elle se fait prospecter dans tous les sens toute la journée. Moi, je suis juste une petite moustique. Pour elle, une fois, qui a volé à côté de son oreille il y a 3 ans. Voilà. Donc, je n'ai pas touché à ma réputation, je n'ai pas endommagé ma réputation. Je dis, ça ne m'a coûté rien. Et là, j'ai un client et 2 rendez-vous commerciaux dans le pipe. Là où avant, je n'avais rien, okay, juste mes propres insécurités. Et donc, c'est là où il est né la théorie de la veste et j'avais envie de comprendre ce peur de rejet qui bloque, ouais, tellement, soyons honnêtes, de femmes. Aussi beaucoup d'hommes, hein. Mais je vais dire que la syndrome de l'imposteur, le peur de demander, le peur de s'afficher, c'est souvent des choses avec c'est souvent des choses avec lesquelles nous, les femmes, vont lutter. Et je voulais comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on a peur de prendre une veste, pourquoi cette peur irrationnelle du rejet quand on n'a pas peur de faire autre chose qui sont beaucoup plus dangereux, etc. Et donc, au fur et à mesure, ces recherches m'amenaient à, comme ma devise, c'est faire, c'est être et faire maintenant, c'est mieux, m'amenaient à construire un plan, un espace de régime, mais au lieu de faire ça pour perdre du poids, vous le faites pour gagner en confiance, okay, que des étapes que nous puissions faire, et c'est là où est née la théorie de la veste. Et j'ai donné une conférence sur la théorie de la veste, et en faisant une tentative de veste, c'est comme ça que j'ai pu pitcher à mon éditeur et avoir un agent et tout ça. Et en fait, la théorie de la veste, c'est 3 choses. C'est 1, se fixer un quota de veste à prendre tous les jours. D'accord? Parce que si on a un objectif, je veux dire que on sait très bien que pour faire un business, il faut faire de la vente. Mais c'est trop abstrait. Je veux dire qu'il faut se donner un
objectif concret,
un objectif de vente vis-à-vis telle cible, parce que je sais que tel genre de client est ma porte et okay. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire que on a envie d'oser plus, on a envie de cultiver et de créer plus d'opportunités pour nous en phase avec notre ambition, peu importe ce que c'est notre ambition, hein. Que ça soit que tu doubles l'audience de ton podcast, peu importe, tu vois. Mais on choisit notre ambition, ensuite on brainstorm avec nous-mêmes ou avec notre copine de la douce, parce que pratiquer la théorie de la veste à plusieurs, c'est quand même plus sympa. Okay. Et on va faire des tentatives de veste. Okay. Et on va essayer d'en avoir. Moi, c'est 3 vestes par jour et 2 le week-end. Okay. Mais je connais d'autres où c'est 1 veste par semaine, 3 vestes par mois, etc.
D'accord. C'est quoi tes vestes le week-end, du coup, typiquement? Parce que dans le boulot, on l'imagine aisément, mais par contre, dans la vie perso...
Oh, ça peut être plein de choses, hein. C'est pas forcément des choses dans la vie perso. Je vais dire que parfois, je profite du week-end pour faire des vestes sur mes petits projets de côté. Par exemple, on est en train de travailler une émission de télé. On a pris une veste de la part de Netflix, on a pris une veste de la part de Amazon Prime. Donc là, on attaque à des différentes chaînes hertziens pour qu'ils produisent notre émission de télé. Donc, écrire l'email qui sont des tentatives de veste. Pour ça, je vais faire ça le week-end parce que la semaine, je travaille pour nourrir les salariés. Je travaille pour générer de la valeur pour Present Perfect. Ça peut être autre chose. Par exemple, j'avais envie qu'un de mes enfants intègre une école un petit peu prestigieuse dans la région, etc. Donc, c'est pas cher, mais c'est difficile d'en avoir une place. et donc d'essayer de cultiver les relations qui va éventuellement ouvrir cette porte pour mon enfant. Ça, ça peut être une tentative de best le week-end, etc. Donc, en faisant un quota de best, on découvre qu'il y a tellement d'opportunités auxquelles on se déniait avant parce qu'on avait peur d'être rejeté. On se rend compte aussi que la honte ne tue pas, que le rejet ne tue pas. On se rend compte aussi que plein de choses dont on était sûr que ça ne se demande pas, en fait, ils se demandent si on creuse un peu et si on soigne notre communication. Donc, c'est pour ça que loser pour loser, c'est la lose. Hein. Il faut encadrer cette histoire, c'est ça ce qui le rend hein, une méthode. Et les critères d'une bonne tentative de veste sont les suivants. Ils sont triples. Un, il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste. Parce que maintenant, on se fait connaissance, Charlotte, tu vois. Si demain, je te dis, tu vois, est-ce que tu serais d'accord de me passer un enregistrement du podcast pour que je peux mettre ça dans mon dossier de presse, machin, ben, ce n'est pas une tentative de veste parce que tu vas probablement me dire oui, d'accord?
Eh bien non, en fait, justement, non. Non, je blague.
OK. Mais si, par exemple, toi, Charlotte, t'envoies cet épisode qu'on vient d'enregistrer à quelqu'un que tu connais chez Elle Magazine et tu leur dis que, en fait, j'ai découvert Annabelle Roberts dans vos pages et 2 ans plus tard, j'ai fait un podcast avec elle et ça m'a rappelé de vous et l'honneur que ça sera de voir mon podcast sur les pages d'elle un jour. Donc, c'est pour ça que je mets cette bouteille dans la mer et je vous envoie l'MP3 de mon dernier podcast. Okay. Ça, c'est une bonne tentative de veste parce qu'elle remplit les critères. Pourquoi ? Un, tu es quasi sûr que c'est une veste. D'accord ? Donc, ça te rend forte au rejet. Ça normalise le rejet pour toi. Ça normalise l'échec pour toi. D'accord ? Douleur plus réflexion égale progrès. On enlève un parti de cette occasion et ça ne marche plus. D'accord ? On ne peut pas avoir le progrès sans qu'on n'a pas eu le douleur plus la réflexion pour en tirer des leçons et en avoir de la progrès, d'accord? Ça, c'est pas du Annabelle Roberts, c'est une citation d'un monsieur qui s'appelle Ray Dalio, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Principes » après 50 ans de banque d'investissement. Donc, il a su grandir le cabinet d'investissement actif le plus rentable du monde, d'accord? Donc, il faut que tu sois quasi sûr que c'est une veste. Deuxièmement, il faut que si jamais ce n'est pas une veste, ça te propulse vers ton ambition. Tu vois ? Donc, il faut…
C'est qu'il y a un sens, en fait. C'est qu'il y a un sens par rapport à ce que tu veux faire.
Voilà, on ne veut pas juste loser Kéké Freestyle dans tous les sens. C'est stupide, ok ? C'est une perte de temps. D'accord ? Donc, il faut que ça soit en phase avec ton ambition. Ce qui va dire, il faut que tu es capable de te poser la question à la fois simple, à la fois extrêmement complexe. Qu'est-ce que je veux ? D'accord ? Donc, ne vous laissez pas faire intimider par cette question parce que « qu'est-ce que je veux ?» peut être quelque chose d'aussi simple que de moins détester mon travail, par exemple, ou d'être moins malheureux au travail. Et donc, tu dis que pour être moins malheureux au travail, j'ai envie d'être payé un petit peu plus. Voilà. Et donc, après mes recherches, je comprends que être payé plus, il y a plein de choses que je peux faire, plein de stratégies que je peux mettre en place pour être payé plus. Je peux trouver un sponsor professionnel, je peux trouver un mentor, je peux trouver un coach en négociation, je peux, je sais pas…
faire un benchmark
faire
des salaires.
Faire un benchmark, voilà, faire des simulations, demander une aide extérieure, etc., etc., ok avoir quelques réussites qui sont très visibles dans l'entreprise, d'accord. Des choses visibles en entreprise sont des choses où tu te manifestes, telles une prise de parole ou, voilà, une audience avec des gens qui sont puissants, blablabla, ok. Et donc, tu vas réfléchir à ça et si on revient à ton tentative de veste, un, tu es quasi sûr que c'est une veste. Ouais. Deux, si jamais ce n'est pas une veste, allô, ton podcast sera en L, ça sera quand même.
Eh bien, mon podcast est dans le L.
Ben, je ne suis pas étonnée. Ouais. Je ne suis pas étonnée, Charlotte, tu vois. OK, donc peut-être visons un petit peu plus haut et disons les échos. OK
Je n'ai pas fait les échos encore. J'ai fait le monde, mais c'est pas bien. Les échos. Ouais.
Voilà.
Non, la radio, la radio, ma prochaine veste, la radio ou la télé.
OK, top. OK, top. Donc là, ton ambition, c'est, tiens, Parisien, le monde, elle, c'est fait. OK, je suis en train de gagner dans tous les sens. Allons-y. Plateau télé, New York Times, CNN. OK, donc, tu dis, là, j'ai envie d'un un média télé. Okay. Et donc, tu vas envoyer ton podcast à quelqu'un que tu sais et qui est en charge de choisir qui va faire des plateaux, etc. Okay. Donc, là, ça va te propulser vers ton ambition si jamais ça marche. Et le troisième critère, c'est dans aucun cas, est-ce que ça doit nuire à ta réputation ou la réputation du podcast ? D'accord. Et donc, en fait, si on reprend l'exemple d'être en plateau télé, là, tu trouves une dame que tu sais que c'est elle qui book les talents pour telle émission que tu as envie de faire, etc. Okay. Et donc, tu l'envoies un message sur LinkedIn, en sincérité et en gentillesse, comme tu es, en fait. Et il faut que tu sois honnête et que tu assumes ton ambition et que tu dis... Bonjour Intel, je sais que vous devez être sollicité dans tous les sens et pour vous dire la vérité, je suis même un peu gênée de vous envoyer ce podcast, mais je trouve qu'il y a un sens pour blablabla. Ça sera tellement un honneur et un rêve pour moi de me retrouver en plateau avec blablabla et discuter parce que je trouve qu'on partage beaucoup de valeurs et que ça sera une discussion riche à la fois pour nous mais aussi pour les écouteurs ou l'audience.
Vous dites.
Et c'est pour ça que j'ose vous envoyer ce podcast bien à vous, ambitieusement, Charlotte. Tu vois? Donc, ça, c'est une bonne tentative de veste parce que, un, on est quasi sûr que c'est une veste. Deux, si jamais c'est pas une veste, bingo,
c'est super
le chien,
cool.
Quoi. Ah ouais, ok. Trois, ce tentative de veste ne nuit pas à ta réputation, au contraire, tu vois. Le pire, ce qui va arriver, c'est qu'elle ne va pas le voir. Et donc, tu es là où tu étais avant, d'accord. Le moyen, genre, la situation rouge, genre, oh, c'est horrible, elle ne va pas le voir. La situation jaune, c'est, elle le voit, elle dit, bon, c'est mignon, mais c'est pas pour moi. OK? D'accord? Mais jamais elle va penser, oh, mais elle est lourde. Oh, mais je vais pas écouter son podcast. C'est clair qu'elle a pas de goût, machin. Non, ça, c'est des films qu'on fait tout seul. OK? Le petit voix, elle peut dire des choses bien comme elle peut dire des choses pas bien, n'est-ce pas? Et le scénario verte, c'est, oh, quelle audace, cette femme. Quelle audace. Et en plus, elle a tout construit de tout. C'est, personne lui a donné quoi que ce soit. Elle a construit son podcast de zéro avec des centaines de reviews sur la iTunes. Bravo, meuf. Ouais, why not? Super. Tu vois? Donc, ce qui veut dire étudier le peur du rejet veut dire aussi étudier la confiance en soi. Ce qui est toute la dernière partie du livre parce que la théorie de la veste, en fait, était inventée pour donner confiance à ceux qui ont des situations comme moi et non pas nés dans une famille de 10 enfants mormons, non. Nés dans une situation où leur ambition n'était pas congruente à leur situation. Si vous avez déjà entendu quelque chose genre « vous ne pouvez pas être heureux avec ce que vous avez, okay. Vous avez un CDI, il y a plein de gens au chômage, vous ne pouvez pas vous contenter de ça déjà ?» Okay. En anglais, on a une expression que c'est « bloom where you're planted ». C'est-à-dire qu'il faut que tu croîtres là où tu es né. Et je déteste ce discours parce que il faut que tu croîtres là où tu as envie de croître. Le talent est partout, l'opportunité n'est pas. Et le traumatisme et le malheur, c'est pas une course, c'est pas une compétition. C'est pas parce que toi, tu es malheureux dans un CDI où tu gagnes 5000 euros par mois que tu n'as pas le droit d'être malheureux parce qu'il y a des gens qui sont au chômage qui gagnent 500 euros par mois de revenus minimum. Tu vois. C'est un ne efface pas l'autre.
On est complètement d'accord.
Tu vois ouais. Et donc, il ne faut pas comparer ces situations et se laisser dire que, bon, j'ai moins de raisons sur le papier d'être malheureux que plein d'autres dans ce monde Donc, je vais continuer à être un bon soldat, etc.
Okay. J'ajouterais qu'il ne faut pas avoir de culpabilité parce que souvent, ce qui se passe quand on n'est pas bien et quand en soi, sur le papier, on a tout par rapport au regard des autres, il y a beaucoup de culpabilité. C'est se dire, mais j'ai pas, enfin, comme tu dis, j'ai pas le droit, tu vois. J'en parlais avec Alia Cardin que j'ai interviewée, qui était une avocate d'affaires hyper brillante, et en fait, elle était pas bien, en fait. Et aujourd'hui, si tu veux, elle est romancière à succès. Et ouais, ça a été difficile pour elle de quitter cette vie parce qu'elle s'est dit, mais est-ce que j'ai le droit de quitter ce job de fou dont beaucoup de personnes rêveraient? Mais oui, si t'es pas heureux, si t'es pas à ta place, si t'es pas là où. Enfin, tu n'utilises pas tes talents, ta zone de génie. Ouais, on est bien là où on est, quand on est aligné, quoi.
C'est ça. Et donc, parfois, c'est une culpabilité, genre, je n'ai pas le droit d'être malheureux car j'ai un bon salaire, j'ai un bon poste, j'ai machin, machin. Et parfois, c'est aussi une peur, je n'ai pas le droit de changer car tout mon réseau est dans ce domaine. Toutes mes compétences sont dans ce domaine. Je dis, je vais repartir de zéro. Et j'ai écrit la théorie de la veste pour ces personnes-là. Okay? Que vous soyez dans cette situation parce que vous êtes ambitieux et vous avez du talent et ça se trouve que vous êtes né dans une famille pauvre, dans un quartier craignos dont voilà, avec un nom que les Français ne vont pas regarder deux fois ton CV parce que tu t'appelles un tel, bah, la théorie de la veste. Je vais dire que pour assumer votre ambition et cultiver de l'opportunité là où il n'y aura pas, allez-y. Okay? Ou la personne qui est en réconversion, qui doit redémarrer un network de rien, redémarrer une communauté de rien, etc. Eh bah, super, la théorie de la veste. Donc, la première chose, c'est de se donner un quota de veste tous les jours, okay? Un peu comme on compte nos calories si on veut perdre du poids, okay? On s'impose des minutes d'affronter à son peur de rejet en fixant un quota de veste qui, figurez-vous, souvent, ça se paye. Donc au début, le premier mois à pratiquer la théorie de la veste, on voit que les gens, 50% de ce qu'ils étaient sûrs sera une veste est en fait une opportunité.
Et là, du coup, aujourd'hui, donc, tu es la présidente de ton agence, mais qui est devenue maintenant, au début, donc, tu étais toute seule chez Présente Perfect. Aujourd'hui, vous êtes combien?
Alors, aujourd'hui, on est peu en CDI. Hein. Il fut un temps où on était plus, mais en fait, on s'est vraiment rendu compte chez Présente Perfect que small is beautiful. Et quelque chose que le Covid m'a appris, en fait, c'est de me débarrasser de les KPIs, entre guillemets, traditionnels de la réussite, tu vois. Ouais. C'est avant le Covid, on était en train d'ouvrir un bureau en Chine, on était en train d'embaucher dans le maximum possible, on était beaucoup plus agressif dans nos tactiques d'acquisition client, etc. Et avec le Covid, où on a perdu 60% de notre chiffre d'affaires dans l'espace de 3 semaines, ça nous a calmé, ça nous a fait poser des questions sur qu'est-ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment? Et finalement, quand on a regardé nos clients, il y en avait un tiers qui ne nous intéressait pas parce que ce n'était pas une chouette collaboration, parce que c'était du CA pour du CA. On ne prenait pas notre pied. Quand on regardait dans des gens qu'on avait embauchés, certains étaient des membres de la tribu Present Perfect qu'on ne peut pas imaginer vivre sans eux aujourd'hui, mais d'autres, ils s'occupaient une place, quoi. C'est méchant de dire ça comme ça, mais ils n'étaient pas à leur place chez eux. Et donc, on s'est séparés de ces gens-là. Et là, en fait, on a, comme beaucoup de sociétés, tout digitalisé. Donc, pendant le confinement, j'ai transformé mon sous-sol en studio de télé et on a transformé tous nos produits, tous nos savoir-faire Nous, on est spécialisé dans tout ce qui est communication orale. Donc, comment prendre la parole en public, comment avoir une communication assertive, comment faire sa marque personnelle, comment utiliser le storytelling pour en tirer plus de valeur de votre marque, ce genre de choses. Okay? Tout ce qui a un lien à la communication orale. Et on gagnait la moitié de notre vie en agence quand on faisait du consulting et un travail d'agence pour nos marques et l'autre en formation. Comme on avait du temps à se poser des questions, on s'est dit que c'est vraiment la formation qui nous fait kiffer. Les marges sur les formations sont plus intéressantes aussi. Les marges sur les formations digitales sont des marges de sa kermesse. Et c'est là où on s'est dit que c'est dans cette direction-là qu'on a envie d'y aller. Okay? C'est pas parce qu'une sa kermesse est chère et qu'il y a des marges en très bonne santé que ce n'est pas un produit de qualité. Donc, nous, on s'est dit que qui dit formation dit personne. On dit, non, en fait. Avec le digital, on a une manière de captiver et préserver nos savoir-faire dans une espèce de e-learning qui reste super fun. Donc, on a pivoté vers ça, ce qui fait en sorte qu'on fait plus de chiffre d'affaires avec moins de gens et avoir des gens que j'adore collaborer avec eux. Et ouais, non pas clients, des gens ouais. que, ouais, il y a un tel du marketing, bon, elle fait bien son job, mais c'est manger avec elle, c'est pas trop mon truc, ok? Il n'y a pas ça chez Présent Parfait. Donc, c'est finalement, je pense qu'on a vraiment trouvé notre mode de fonctionnement. Tu n'as pas besoin d'avoir 52 employés pour être considérée comme une entrepreneuse successful. T'as pas besoin, je me culpabilisais en fait parce que là l'année dernière on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires et je me fouettais en disant oh, que 1 million, oh là là Annabelle, loser, mais comment ça se fait que tu fais que ça, machin nana, un tel, elle en a fait 52 millions, machin nana, t'es une loseuse avec tes pauvres petits millions d'euros de chiffre d'affaires. Je dis mais attends, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais tout le monde gagne des chouettes salaires. Tu as une mode de vie que il y a peu, en fait, comme toi, qui sont des immigrantes, qui ont fait des études pareilles, qui ont des modes de vie comme toi. Tu as le temps de faire ton petit potager le week-end. Donc, je me suis libérée de ces définitions traditionnelles, entre guillemets, du succès.
C'est quoi, d'ailleurs, du coup, pour toi, le succès?
Pour moi, le succès, c'est comme je t'ai dit au début de cet enregistrement, je ne sais pas si elle s'est enregistrée ou pas, mais c'est heureux, c'est le nouveau riche. Heureux, c'est le nouveau riche. Tu vois, genre, donc je pense juste à une actualité comme ça. On a M. Dassault qui meurt tragiquement dans un accident d'hélicoptère et c'est affreux. Et j'aurais souhaité que ça n'a pas eu lieu, mais en regardant ce qui est la situation de cette famille dans laquelle ils sont, un des familles les plus riches de la France, mais tous les frères et sœurs, ils ne se parlent pas entre eux, ils sont en fight, on ne sait pas qui va être la succession, il n'y a pas d'héritier net, clair, nanani, nanana, nanana. Je dis que, comme on dit en anglais, more money, more problems. Et j'ai assez pour vivre, j'ai largement assez pour vivre. Par exemple, là, ma fille, elle me dit, pour mon anniversaire, j'ai envie de voyager, prendre l'avion. Elle a 4 ans. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Elle me dit, je veux faire pipi dans un avion. Ah, bon Dieu. Très bien. Donc, je dis, bah, chouette, on va partir, on part en Corse, je prends un hôtel 5 étoiles, et j'y réfléchis même pas deux fois. Pour moi, riche, c'est quand tu sais que la carte bleue va toujours fonctionner. Quand tu penses plus à ta carte bleue, en fait, pour moi, t'es riche. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vois? Tu veux 15 cartes bleues qui vont toujours fonctionner? Who cares? You know? Et à partir de ce moment-là où je sais que la carte bleue va fonctionner à tous les coups, pour moi, je suis riche. Et ça me permet, en fait, de passer du temps avec ma famille, avec mes enfants. On répète le piano tous les matins avec les enfants. Je les vois tous les week-ends. Je veux dire que là, faire ce pivot vers le 100% digital, ça veut dire que je n'y vais plus en Chine. Les clients qui me disent « viens me voir à Marseille, viens me voir à Nanana », tout se passe à digital. C'est tellement super. Donc, pour moi, la réussite, c'est quand t'es bien, en fait. C'est quand tu es bien. Et si tu as besoin de construire un business à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour être bien, mazel tov, éclate-toi. Tu vois. J'ai beaucoup apprécié quelqu'un qui m'a dit que Annabelle, le vrai féminisme, c'est le femme qui fait ce qu'elle veut. Et je suis assez d'accord. C'est la femme qui fait ce qu'elle veut. Donc, pour moi, j'ai réussi. J'ai toujours besoin de penser à ma prochaine conquête. Donc, j'essaye de faire marcher ma série télé. Je vais écrire un deuxième bouquin. Donc, je suis en train de réfléchir à ça. On essaye de signer d'autres contrats avec d'autres éditeurs à travers le monde pour que la théorie de la veste soit partout.
Génial. Et qu'est-ce que tu penses que la petite Annabelle de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ?
Je pense qu'elle ne comprendra pas ce que je fais dans la vie. Et c'est d'ailleurs, mais c'est vrai, c'est drôle parce que ma mère, par exemple, elle ne peut pas comprendre ce que je fais dans la vie. Tu te fermes dans un bureau et tu tapes des trucs dans ton ordinateur et après tu parles à des gens que tu connais ni d'Ave ni des dents et tu es payé pour ça. Elle ne peut pas comprendre. Donc, si, tu vois, pour elle, le travail, mon père, il fait un vrai travail.
Il fait quoi, ton père ?
Il conduit un camion. Maintenant, il est à la retraite, mais il avait un business de transportation de pétrole. Et donc, il est dans la boue et il met des chaînes sur ses grosses roues et il transporte de la pétrole. Et le client peut voir les kilomètres qu'il a conduisé pour transporter ce pétrole. Et donc, ça c'est un travail. C'est travailler avec le cerveau, vendre ses idées, en quelque sorte. Je pense que l'Annabelle de 6 ans ne comprendra pas ce que je fais. Après, voilà, elle dirait, bon, elle a quand même des chouettes choses, donc elle a dû réussir quelque chose dans la vie. Mais voilà.
Et aujourd'hui, tu as quelle relation avec tes parents et ta famille ?
Pas beaucoup, pour te dire la vérité, parce que c'est... Je suis vraiment le mouton noir de la famille. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont différentes chez nous. C'est quand on a des idées qui sont différentes, par exemple, mes parents, ils votent à droite et moi, j'ai plutôt tendance à voter à gauche, on peut surmonter ce genre de choses parce qu'il suffit de ne pas discuter politique ou économique autour de la repas de Noël pour que ça se passe à peu près bien. Mais quand on a des différences des idées et des différences de valeurs, par exemple, un de mes valeurs, c'est l'égalité des chances. C'est très important pour moi. C'est ce discours de « ouais, t'es né pauvre, mais t'as que à t'éduquer et t'appliquer et tu peux arriver si tu veux ». Je veux dire que voilà, c'est pas parce que t'es né en banlieue que tu peux pas arriver en COMEX, etc. Ça m'énerve en fait. C'est juste pas du tout aussi simple que ça. Et donc, Cette importance d'égalité des chances, pour moi, c'est important. Pour moi, on a des points de vue extrêmement différents sur ce point-là. L'égalité homme-femme, très différente. Que deux hommes, s'ils sont amoureux, ils ont le droit de se marier et de faire un enfant, c'est un péché absolu. Mais comment oses-tu dire des choses pareilles? Donc, on n'a pas des super, super relations. L'autre chose aussi, c'est que il m'a fallu être mère pour comprendre la gravité, en fait, ce que c'est de s'abandonner son enfant et de le confier à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, quand j'ai senti ce que c'est l'amour inconditionnel, quand j'ai senti ce que c'est d'être prête à faire tout pour son enfant, et de penser à ce que j'ai vécu et d'être en quelque sorte éloignée, en fait, quand j'avais juste besoin d'être compris. C'est pas aussi simple que ça aussi, hein. Il y a une histoire, c'est jamais noir ou blanc. Mais moi aussi, ça m'a un peu coupé l'envie, en fait, ce que j'ai d'investir dans cette relation. Donc, j'ai pas de haine, j'ai plus de colère. J'ai eu pendant longtemps, mais je n'ai plus de colère. Mais des interactions avec ma famille m'apportent pas énormément de joie comme des interactions que je vais avoir avec mon associé, avec mon meilleur ami, avec mon mari, avec sa mère, avec mes enfants. Et donc, il y a juste une question de quelles sont des relations que tu vas nourrir. Parce que le temps qu'on a pour nourrir des relations, c'est pas infini.
C'est sûr. Ouais. Et du coup, tes enfants connaissent leurs oncles et tantes et leurs grands-parents ?
Un peu, de loin.
Ouais. Ils sont déjà allés les voir ?
En Canada, le ouest du Canada, non, pas vraiment, parce que c'est un peu le bout du monde.
Ouais.
Et donc, on était censé passer l'été l'année dernière en Alberta. Bon,
ouais.
COVID, ça n'a pas ouais. eu lieu. Pareil cette année, donc ils ne connaissent pas forcément plus que ça. On y va à Montréal beaucoup plus souvent, parce que ma mère, elle a converti au mormonisme, donc elle est québécoise.
Okay.
Et donc sa famille québécoise, je suis beaucoup plus proche avec eux, par exemple.
D'accord.
Ils connaissent leurs cousins, mes tantes, par exemple.
Ouais.
Mais d'y aller en Alberta, non. Non, pas D'accord. vraiment, parce que l'autre chose aussi, c'est que si mes parents viennent ici, ils savent qu'ils doivent respecter en quelque sorte les, entre guillemets, règles de ma maison, ce qui veut dire qu'on ne prie pas avant de manger, qu'on n'y va pas à la messe, que on va boire du coca, on va boire du thé ou du café, ce qui est strictement interdit dans la religion mormone, par exemple. Si j'y vais là-bas, c'est prière quand on se lève, prière avant le petit déjeuner, prière avant chaque repas, prière ensemble avant de se coucher, lever des textes religieux le matin, machin, machin. Donc, ouais. j'ai pas forcément très
oui.
envie de.
Ouais. Et chose que je savais pas du coup, que ta maman s'était convertie. Donc toi, donc les grands-parents chez qui tu avais été vivre, c'était ses grands-parents
de mon père.
Donc qui, eux étaient mormons aussi. Ouais. Ok.
Encore mon nom. Et j'allais même dans un lycée parce que en fait l'église mormon, dans les endroits où il y a beaucoup beaucoup de mormons, tels que le Utah, l'Alberta, Idaho, ce genre d'endroits, en fait ils ont même une très forte place dans le gouvernement. Donc là, l'école où je suis allée, c'était pas une lycée mormone. Mais il y avait un partenariat avec l'église mormone où, pendant certains moments du lycée, j'allais en face dans une espèce de petite lycée mormone pour okay. prendre des cours de mormonisme, de machin.
D'accord. Ouais. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi, du coup, pour toi, tes renoncements?
Renoncement, ça veut dire qu'on renonce à quelque chose, c'est ça?
Ouais.
Ouf, beaucoup, parce que être mormone n'a pas que des désavantages. Il y a une raison pour laquelle il y a tellement de femmes qui restent. C'est parce que il y a un espace de sororité et fraternité que j'ai quitté et qui a laissé un énorme trou dans ma vie. Je me souviens que quand j'ai eu mon premier enfant, c'était au début où je lançais la boîte, donc j'avais peu de clients, ce qui veut dire que j'étais presque chômeuse, en fait, malgré les peu de clients que j'avais au début de l'entreprise. Et j'ai accouché mon premier enfant. Et deux semaines plus tard, mon mari était dans un avion pour y aller faire un reportage à San Francisco. Et pendant deux semaines, j'étais toute seule avec un nouveau-né, avec des seins qui saignaient, avec des douleurs et des blessures qu'on a après un accouchement, et j'avais personne au monde à appeler, personne. Et quand on est mormone et on accouche, oh là là, on a un espace de squad, en fait, d'amour, et il s'appelle comme ça s'appelle le care squad, qui est responsable de toi et qui est au courant que tu vas accoucher. Et donc, pendant que tu es à l'hôpital, il vient chez toi et il nettoie tout pour que tu rentres dans la maison nickel. Le frigo est rempli, mais le frigo n'est pas rempli de courses. Le frigo est rempli de choses à manger, déjà préparées, que tu n'as qu'à mettre dans le four. Et pendant deux semaines. Et c'est tes sœurs mormones qui t'ont fait, on appelle ça le baby shower, ce qui veut dire que tu es enceinte de 7 mois, 8 mois, 9 mois, et tu as reçu tous les cadeaux de naissance jusqu'à 18 mois. Ça veut dire que tu ne vas pas acheter un fringue, tu ne vas pas. Tout ça est fait. Si tu ne sais pas allaiter, ben, il y a ta voisine qui a 3 enfants qui va être à côté de toi, qui va être ta coach en allaitement. Donc, ça, c'est dur. Le chant aussi, ça me manque, parce que quand tu es mormone, tu chantes beaucoup. Tu chantes des chansons religieuses, tu vois, mais tu chantes en chorale, tu chantes toutes les semaines à la messe, tu chantes ensemble. Donc, pour moi, il y a un lien entre la solidarité et le chant. D'ailleurs, dans les sociétés où on retrouve les cultures les plus fortes, souvent on retrouve aussi le chant, si tu peux imaginer ça. J'ai un client qui est Ricard, que tu dois connaître très bien maintenant
à Marseille.
Et je me souviens, un des premiers événements qu'on a fait avec Ricard, d'un coup, il y a 500 bonhommes, gars de comptoir, qui se mettent à chanter le hymne de Rika, dont tout le monde le connaît. Tout le monde se met leurs bras autour de leurs collègues, etc. Et ils sont en train de balader à droite à gauche en chanter dans leur voix grave le hymne de Rika. Donc, moi, ça me manque, le chant. Et autre chose aussi, ça sera peut-être aussi les opportunités que la femme elle a pour faire tout ce qui est art ménagère, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire que la femme moderne, en quelque sorte, je trouve que il faut rejeter un petit peu ces tâches qui nous étaient confiées de manière obligatoire pendant des centaines d'années, telles que la cuisine, le ménage, le machin. Et là, en fait, depuis que je travaille un petit peu moins parce que je me mets moins de pression pour produire les 50 millions de chiffre d'affaires, j'ai un potager, je tricote, je couds. J'ai même installé mon atelier de couture dans le sous-sol parce que j'ai plus besoin de studio de télé parce qu'on en a ouvert un à Versailles. Quoi d'autre ? Je pâtisse, je fais le pain. Donc, toutes ces choses-là que je ne me donnais pas la permission de faire avant parce que c'était la marque d'une ménagère. En fait, je les assume pleinement maintenant. Et je...
Bravo. C'est quoi là où les plus grandes difficultés que tu as eu à gérer ?
Bonne question. Le bonheur de mes employés, ça sera un grand charge mentale que j'ai. Ouais. Malgré le fait que je me donne la permission de travailler un petit peu moins et dégager un petit peu moins de résultats, la performance reste quand même un de mes valeurs. Et donc, comment faire coexister la performance et la bienveillance ? Ça, c'est quelque chose que... c'est un équilibre sujet. Constant, ouais. Je trouve.
Comment tu fais, du coup ?
Comment je fais ? En fait, c'est assez simple. C'est, je me dis, Annabelle, il faut que tu dégages le plus de performances financières possible, mais don't be an asshole. Don't be an asshole. That's it. Donc, en fait, don't be an asshole... c'est vulgaire ce que je vais te dire, mais ça se traduit à ne sois pas une connasse, en fait. Et si je me dis que but numéro un, c'est dégager de la perf, ok, mais avec le condition de ne pas être une connasse, en fait, c'est assez facile. Donc, c'est là, on va faire du fric. On a la possibilité de signer une mission de coaching avec une grosse société d'énergie en Brésil, mais ça veut dire que la coach qui va assurer les coachings doit se lever à 3h du matin pour pouvoir garder les rendez-vous. Bah, faire lever des gens à 3h du matin, c'est un truc de connasse, c'est pas gentil, tu vois. Après, dire que, écoutez, nous avons cette mission, nous allons facturer une prime pour des horaires qui sont bizarres pour nous. Si tu es d'accord de le faire, je suis d'accord de te récompenser en RTT 1 fois 1,5. Okay. Après, si c'est pas OK, on refuse. C'est tu pas, vois. Ouais. Je suis pas à 5 000 euros près. Je ne suis pas à 5 000 euros près. Et donc, faire coexister la performance et la bienveillance, c'est un, dans un premier temps, se dire que la croissance financière, si ça doit être la seule KPI pour indiquer la santé de ta boîte, tu es à côté de la plaque, tu es malade en fait. C'est pourquoi est-ce qu'on est en train de voir que le capitalisme ne marche pas ? C'est parce que, comment on dit ça en français ? Le PME, non.
Le PIB.
Le PIB, voilà. est le seule mesure de est-ce qu'un pays est en train de réussir ou pas. What bullshit, tu vois? Ok, le PIB en Japon, super, mais si 9% des hommes entre 20 et 40 se suicident, désolé, mais vous n'êtes pas en train de réussir là. Okay, vous n'êtes pas en train de réussir. Donc, pareil, si on fait plus 30% de croissance dans l'année, mais j'ai deux de mes employés qui sont en burn-out, bah non, c'est, voilà, c'est pas comme ça que je définisse la réussite. Donc, faire exister la performance et la bienveillance, et aussi être sûr que mes enfants grandissent bien, quoi. Donc, on peut t'en facilement...
Trois.
Ouais, j'en ai trois. Donc, si on a... si on a eu un peu une enfance de merde, tu vois, pour le dire, on peut vite surcorriger et être à fond en disant qu'il faut que mes employés, ils ont, mes enfants, ils ont tout le machin de main, et le piano, et les meilleures écoles, et ci, et ça, et l'équitation, et machin de main. Et après, en fait, non, il faut juste leur laisser être comme ils sont, mais en poussant un petit peu, en disant que moi, j'aurais réussi mes enfants s'ils sont des adultes qui contribuent à la société et qu'ils aiment ce qu'ils font et s'ils sont heureux. Et puis voilà, c'est tout.
Pour les auditeurs, on expliquera que le bruit derrière, c'est le bruit du chien.
Oui, c'est le bruit du chien. J'ai pris la peine d'avoir un chouette micro, machin. Au début, je dis, mais Charlotte, est-ce que le son, ça te va? Et après, on a le chien. C'est... Ouais. Pardon.
Mais c'était juste pour... parce que moi, je le vois derrière, mais s'il y a une personne qui... il y a des bruits bizarres, c'est un chien.
C'est ça, c'est ça.
C'est quoi tes plus grandes peurs aujourd'hui et comment tu les affrontes?
Pour moi... ma plus grande peur, c'est bon, c'est un peu bisounours hein, ce que je vais te dire, mais mes relations n'ont jamais été en aussi bonne santé. Donc, mon relation avec mon mari n'a jamais été en aussi bonne santé. Peut-être au début, quand on était en phase genre nouveau amoureux et tout, mais vraiment, on est très très proches. Mon relation avec mon associé, je l'appelle ma work wife, n'a jamais été aussi forte et en aussi bonne santé. Pareil avec mes collègues, pareil avec mes enfants et avec mes proches. Donc, en quelque sorte, quand on est en haut, on a peur de la descente, tu vois. Donc, mais après, comment je l'affronte, c'est que je dis logiquement. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, tu vois. On n'est pas à l'abri d'un cancer ou quelque chose d'horrible comme ça, mais ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie dans les choses dont on n'a pas le contrôle. Donc, je m'empêche à avoir ce genre de pensée-là. Comment j'affronte mes peurs, mais c'est que je force mon cerveau à faire son job d'organes rationnels. C'est-à-dire que quand tu as un sentiment, il faut, si c'est un sentiment qui te parasite, il faut savoir dire « Oh, stop, je vais réfléchir, je vais essayer de suspendre cet sentiment qui me parasite et réfléchir rationnellement, d'accord ?» un peu comme le peur du rejet, ce n'est pas rationnel. Et quand on y réfléchit, en fait, c'est un peur irrationnel qui ne pose aucun danger à notre personne si on sait l'affronter avec l'intelligence. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Si vous avez un sentiment qui ne vous plaise pas, hein, il suffit de le suspendre et de penser rationnellement. Ouais, c'est ça la meuf, c'est trop facile. Mais à part de ça, je n'ai pas une réponse... plus profonde que ça, malheureusement.
Non, mais c'est super. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui?
De quoi je suis la plus fière? Justement, la qualité de mes relations. Donc, Dieu sait que j'en ai pas beaucoup. Donc, en fait, c'est un travail que j'essaie de faire sur moi-même. C'est que j'ai vraiment une intolérance pour des gens que je considère être cons, quoi. Et il me suffit de peu, en fait, pour égarer quelqu'un de ma vie, mais complètement. Tu vois? Et donc, c'est, c'est je travaille sur ça, par exemple. Oui, ça suffit comme réponse.
Oui, bien sûr. Oui. Si une personne apprend que tu as écrit un livre qui est un beau succès, qu'aujourd'hui tu es heureuse, que tu as une belle famille et qui te dit mais tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre?
J'ai envie de répondre que la chance joue une bonne partie quand même, en fait. Et j'aime pas ce discours de méritisme, parce que quelqu'un qui a quelque chose, ce n'est jamais 100% du méritisme. Donc, j'ai eu la chance d'être née dans le Canada et non pas dans le Uganda. J'ai eu la chance d'être née avec un visage symétrique et des belles yeux bleus et une peau blanche qui malheureusement, même de nos jours, me permet certaines opportunités que je n'aurais pas. C'est comme si j'avais un peau marron ou noir et je m'appelle Fatma au lieu d'Annabelle, par exemple. J'ai eu la chance de venir dans un pays et trouver en fait un espèce de positionnement pour moi-même, c'est-à-dire que je parle français, mais j'ai cette étiquette d'étrangère qui me permet de dire des choses odieuses qui n'auraient jamais pu être dans la bouche d'une Française et être aussi bien acceptée, à tel point que Flammarion avait envie de publier un livre. Et que des gens vont accepter mes fautes en français, mon accent, etc. Parce que j'ai ce positionnement de Canadienne, de ci, de ça. J'ai eu la chance de rencontrer un homme qui m'encourage. Donc, la décision, pour moi, la personne avec laquelle tu vas partager ta vie, c'est la décision la plus importante dans toute ta vie. Mais ça devrait être la plus facile à le prendre. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui est une vraie féministe, qui n'est pas menacée par la réussite de sa femme. Donc, j'ai une très grande amie qui me dit que le vrai prince charmant est un homme qui n'est pas menacé par la réussite de sa femme. Donc, ça fait beaucoup de chance quand même.
Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui?
Ah oui, plusieurs. En fait, si j'avais une baguette magique et je pourrais changer une chose dans mon passé, ça sera que j'avais une femme auquel je pourrais regarder comme exemple. Et c'est peut-être un peu stupide et cuculapraline ce que je vais dire, mais en fait... cette femme, pour moi, c'était Oprah Winfrey. Donc, Oprah Winfrey, qui était à la télé partout aux États-Unis et Canada tous les jours, et qui était une femme forte, pas mariée, avec son propre empire médiatique, etc. Donc, pour moi, un conseil que j'aurais aimé avoir, c'est que tu peux, en fait. Tu peux. C'est-à-dire que t'es douée avec des mots, bah, tu peux être autrice. T'es drôle, tu dis des trucs rigolotes, bah, tu peux être comédienne. T'es ambitieuse, t'as des grandes idées, bah, tu peux être entrepreneur et construire ton propre business, tu vois. Donc c'est un peu cliché de citer Sheryl Sandberg dans un podcast de meuf, tu vois, mais c'est vrai ce qu'elle dit, tu peux pas être ce que tu ne peux pas voir. Donc c'est pour ça que ma grande rêve quand j'étais petite, c'était d'habiter à New York. Parce que pour moi, je savais que New York, c'était à peu près là où des femmes qui réussissent, elles habitent. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas ce que c'était le marketing. Je ne savais pas ce que c'était le business. J'ai aucune idée. Donc, d'avoir quelqu'un qui me dit « tu peux ».
Ouais, super. C'est quoi, du coup, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais tes prochains défis?
Prochains défis Bah là, pour le coup, j'ai envie de faire... Nous avons fait le choix chez Present Perfect de rester petit, de miser sur la croissance et l'échelle à travers de la technologie et des produits digitaux, parce que qui dit service à l'humain, qui dit service professionnel dit des consultants, dit plus d'humains. Et donc, si tu veux croître, il faut plus d'êtres humains. Et donc là, on a dit stop à ça, parce que c'est trop chiant, en fait. Et de croître à travers de grandir notre chiffre d'affaires et nos part de marché avec des produits digitaux sans embaucher. Ce qui va dire que mon prochain défi, c'est d'agrandir les salaires de tout le monde chez nous. Donc déjà, ils gagnent bien leur vie, mais moi, j'ai envie qu'ils gagnent très, très bien leur vie. Parce qu'à un moment où le Covid a effacé 60% de nos chiffres d'affaires, à un moment où on leur dit qu'on va pivoter, le fiche de poste que vous avez, le contrat que vous avez signé basé sur un fiche de poste, ben, il ne tient plus lieu. Tout le monde a changé de poste. Tout le monde a changé de poste chez nous. Un de nos commerciaux a fait une formation pendant le Covid pour devenir un caméraman, pour devenir...
Ah, génial!
OK, donc tout le monde a
s'est réinventé.
Absolument. Ouais. OK, pour en quelque sorte commencer une nouvelle société et créer ça de le début. Personne a perdu de foi. Ça est en train de porter ses fruits là actuellement. Donc, on est en train de récolter des fruits de ce qu'on a tourné dans mon sous-sol pendant le confinement. Mais ils ont tous resté fidèles, engagés et travaillé comme des porcs pour retourner cette société, pour que nous avons ces produits digitaux. Et ils ont misé sur moi, ils ont misé sur nous. Et donc, ils méritent de gagner. Et je veux qu'on grandisse le chiffre d'affaires et qu'on bénéficie.
Ouais. Et le livre, du coup, comment elle t'est venue, cette idée d'écrire un livre ?
En fait, pour te dire la vérité, j'ai donné une conférence sur la prise de parole, ce qui est mon cœur de métier. Ouais. Et j'étais contactée par une autre maison d'édition qui m'a demandé d'écrire un bouquin. Et donc, j'ai discuté avec eux et ils m'ont dit « on veut que vous écriviez un bouquin sur l'éloquence ». Et ça m'a saoulée. Parce que j'ai dit, mais vous n'avez pas bien fait vos recherches. Vous avez vu, j'ai dit que l'éloquence, c'est pas moi, quoi. J'ai dit, je parle à peine français. Je m'habille dans du Zara et du H&M avec un carré Hermès et des chaussures Hermès, histoire de pouvoir circuler dans des tribus que je veux signer pour qu'ils ne me voient pas comme un outsider, quoi. Donc, vraiment, j'achète ça juste pour pouvoir dire que je suis in the club. Des grands discours fleuris, politiques, machin, c'est pas ça ce qui marche, en fait. La prise de parole, ce qui marche, c'est la sincérité, c'est la possibilité à, justement, défleurisser sa langage pour pouvoir toucher des cœurs des gens. Quand on étudie, on regarde le niveau de complexité de langage qu'on a dans les plus grands discours de l'histoire, que ça soit Charles de Gaulle, l'appel à la résistance à la radio en 45, ou que ça soit Charles de Gaulle, Paris libéré sur la place de l'Étoile en 45, ou Martin Luther King, I have a dream, ou Barack Obama, ou même François Hollande, moi président, hein, dis ce que vous voulez sur François Hollande, tout le monde se souvient de moi président. Il fallait un niveau d'éducation de collégien pour comprendre ces discours. Donc, et j'expliquais ça à la maison d'édition et tout, et ils ont dit, moi, un peu désespéré, c'est quoi le livre que vous avez envie d'écrire, en fait? Et je leur pitchais la théorie de la veste. Et donc, ils m'ont fait un contrat d'édition, pas très beau, vraiment pas très beau, mais une pitance. Si je faisais une chaîne YouTube et j'ai fait 10 000 vues, j'aurais gagné plus que ce contrat d'édition, etc. Et donc, j'ai demandé à une copine qui est aussi autrice, je dis, ben, regarde cette contradiction, ça te paraît normal, ça me paraît quand même vraiment pas top et tout. Elle me dit, ben non, c'est une honte, je vais l'envoyer à mon agent. Et donc, elle a envoyé à son agent.
Ouais.
Et son agent a gentiment dit, mais bon, j'ai 5 minutes, tu viens, tu me pitches. Et je l'ai pitché, et elle a kiffé, et elle a signé. Et voilà.
Et du coup, elle t'a trouvé à la maison d'édition, et ouais. Génial. Trop bien. Et quand tu y allais, tu pensais de prendre une veste ?
Pour te dire la vérité, oui, j'étais quasi sûre que j'allais compter ça dans mon quota de veste. Mais c'est ça ce qui est génial dans le quota de veste, c'est que à la fin de la journée, quand j'ai remplissé mon quota de veste, je peux me féliciter. Tu vois, c'est obtenir ses objectifs, c'est littéralement la définition de la performance. Donc, quand je prends 3 vestes par jour, c'est un peu, bon, allez, j'ai cité Sheryl Sandberg, maintenant je vais citer Mandela. Moi, je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, c'était vraiment ça. Je veux dire que pour moi, ça serait une veste. Si c'était une veste particulièrement douloureuse, bah, je l'aurais compté comme 2, et puis voilà.
qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ?
Pardon ?
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ?
Déjà, j'ai envie de dire merci à mon équipe parce que je ne suis pas une patronne facile. Je suis exigeante et eux, ils me supportent et ils me challengent. Donc là, je vais les remercier. Un truc bizarre, et les gens parfois ils froncent le sourcil quand je le dis, mais j'ai absolument envie de dire merci à ma nounou parce que sans elle, rien de tout ça sera possible. Non, mais je te promets que c'est vrai.
Je vais dire que
mais la charge mentale que je me libère en fait, et c'est une autre point de friction, j'ai envie de dire, entre moi et ma mère, c'est que je cuisine seulement pour le plaisir. Je ne sais même pas comment marche ma machine à laver et je n'ai pas envie de savoir. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi faire ? Chacun son métier. Je ne nettoie pas ma propre maison. Et ce qui va dire que je ne fais que des parties de femmes au foyer, parce qu'en quelque sorte, le télétravail, c'est être une femme au foyer. Mais... qui m'intéresse et dont je pense que je peux générer de la valeur. Donc là, je dis un énorme merci à Cathy, qui pendant longtemps gagnait plus que moi au début, mais et aussi à mon mari, qui m'encourage tout le temps. À plein de monde, en fait. C'est à mon agent, à mon associé, à mon éditeur, à ma maison d'édition, à la dame qui gère les publications internationales à New York, à plein de gens, à l'école de mes enfants, à plein.
Merci beaucoup, Annabelle. Et puis, moi, j'en profite pour remercier Stéphanie qui nous a mis en relation.
Et moi, je te remercie, Charlotte, parce que quelle générosité dans cette interview. J'ai dit, quand j'ai vu 2 heures, j'ai dit, mais non, ce n'est pas 2 heures. J'ai dit, personne n'interview quelqu'un d'autre pour 2 heures. Je dis, mais qu'est-ce que je ne vais pas avoir des choses à dire. Et finalement, ta générosité et ta capacité à faire parler des gens, c'est évident. Qu'est-ce que tu foutais autant que chief marketing, machin, quel dommage que tu n'as pas pu se rendre compte 10 ans plus tard qu'on aurait pu avoir 10 ans de plus de ta merveilleuse podcast. Donc merci à toi.
Merci beaucoup, Annabelle. À très vite, j'espère.
À très vite.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Envie de lire le livre d'Annabelle ? Rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. 10 exemplaires sont à gagner. Autrement, vous le retrouverez dans toutes les librairies. Je vous mets le lien sur le blog pourquoipasmoi.co. Nous nous retrouvons jeudi prochain pour le 50e épisode de Pourquoi pas moi, avec l'incroyable Raphaël Giordano. Au revoir.